La première question était de savoir si nous allions voter oui ou bien si nous allions saboter le vote, qui était la première idée de Roland Béglin. Et nous avons procédé à une analyse comparative des données de 1974 avec celles du vote de 1959, qui avait échoué de peu, mais qui avait échoué tout de même. Donc, nous avions procédé à une analyse systématique de ces nouvelles conditions. Nous avions même ordonné un sondage discret par une entreprise suisse-allemande, téléphonique. Et nous étions arrivés à la conclusion que il y avait les éléments négatifs et les éléments positifs par rapport à 59.
Alors si on prend d'abord les éléments négatifs, lesquels étaient-ils ?
Le premier, c'était la mécanique même du vote qui obligeait les gens de l'offre qui voulaient rejoindre Bâle Campagne ou Soleure à voter contre le Jura au premier tour. Donc c'était une machination juridique absolument odieuse de la part du canton de Berne avalisée par la Confédération qui allait bloquer évidemment les votes du Lofoten. Le deuxième élément négatif, c'était l'apparition du suffrage féminin, puisque nous avions constaté par sondage que les femmes étaient légèrement moins favorables que les hommes à l'indépendance jurassienne, probablement par crainte du risque économique. Donc ça, c'était les éléments négatifs.
Et les éléments positifs ?
Alors les éléments positifs, il y avait d'une part le remplacement des générations. Nous avions le sentiment que les nouveaux électeurs étaient un peu plus favorables que les électeurs qui avaient disparu entre 1959 et 1974. C'était également l'ère du temps avec les révolutions libertaires, mai 68, les mouvements américains, etc. Et le deuxième élément qui était alors, lui, très important, c'était le développement démographique. À savoir que dans les régions où nous avions obtenu le oui en 59, la population avait augmenté davantage que celle qui avait voté non. Donc cet avantage démographique risquait d'être décisif. Il y avait alors, en plus de ça, une grande incertitude, c'était le vote blanc.
Précisément, le vote blanc, c'est ce mouvement qu'on a appelé la troisième force, qui appelait à vider en quelque sorte le plébiscite de sa substance et à voter blanc pour éviter un éclatement du Jura historique. Ça, c'était quand même vraiment la grande inconnue.
Effectivement, on ne savait pas combien de personnes suivraient cette consigne et surtout, on ne savait pas si elle bloquait plus de oui que de non. Et apparemment, nous avions des opinions divergentes entre Roland Béglin et moi, pour la bonne raison que lui habitait de Léman et il pensait que ça bloquait des oui, et moi j'habitais le Jura Sud et je pensais que ça bloquait des non. Et ça a été probablement le cas. Des non ont été bloqués dans le Sud, des oui ont été bloqués dans le Nord, mais au final, ça n'a pas empêché d'avoir une majorité de oui globale de se détacher.
Ce qui est assez marquant quand on regarde cette période, c'est que la campagne pour le vote du 23 juin a été extraordinairement courte entre le 18 mai, la décision des délégués du RJ de s'engager pour le oui, et puis le vote du 23 juin. Quand on voit ça aujourd'hui, ça paraît juste dingue.
Ce qui est vrai, c'est que la campagne a été courte. C'est ce que j'avais fait remarquer à Roland Béglin, qui m'avait répondu « Vous la trouverez bien assez longue quand vous la ferez ». Et il avait entièrement raison. Ces 5 semaines ont été les plus longues de notre vie pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la préparation avait été commencée déjà l'année d'avant. Nous avions préparé notamment tous les textes, les appels, les listes de personnes à contacter au cours d'une préparation pré-campagne qui avait commencé en octobre ou novembre 1973.
Une campagne ici, dans le sud du Jura, qui avait aussi une tonalité peut-être particulière.
Le but était de mobiliser au maximum les régions où nous étions forts et d'avoir une campagne aussi calme que possible les régions où nous étions faibles, c'est-à-dire le sud. Donc ça nous obligeait à la discrétion dans le Jura sud et au contraire à une manifestation de présence très intense dans les régions où nous savions être majoritaires. Et ça a bien fonctionné comme ça. Par exemple, pas de barbouillage, pas de démonstration de drapeau, pas de collage d'affiches sauvages et d'histoires comme ça, qui n'aurait fait qu'énerver l'adversaire et l'inquiéter. Or, le but était qu'il ne soit pas inquiet, qu'il croie tranquillement à sa victoire, jusqu'au moment où il s'apercevrait que c'était une défaite.
Et c'est effectivement ce qui s'est passé, un peu à la surprise, non pas générale, mais en tout cas à la surprise de beaucoup de monde ici dans le Jura Sud, qui n'avait pas forcément perçu que le oui pouvait sortir des urnes à l'échelle des 7 districts.
Le premier des surprises, c'était moi-même. J'étais terrifié par l'optimisme délirant de mes camarades du Jura Nord, qui, eux, me disaient, y compris un historien célèbre comme Victor Erard, « Comment pouvez-vous encore douter de la victoire ?» Je leur proposais de venir se promener à Bévillard pour se mettre à en douter. Mais enfin, le fait est que, jusqu'au bout, j'étais extrêmement inquiet. Aussi parce que je voyais la tranquillité, la sérénité de nos adversaires. Sérénité trompeuse. Et les premiers à être sereins étaient probablement les membres du gouvernement bernois. Pourquoi ? Parce qu'ils obtenaient les informations de leurs fidèles. Et les fidèles disent toujours à leur maître ce qu'ils souhaitent entendre. le courtisan, il flatte au lieu d'informer. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est aussi la réaction d'Henri Houbert, conseiller d'État bernois, dans l'après-midi du 23 juin, lorsqu'il se rend compte que c'est Louis qui va sortir.
Oui, la réaction est restée célèbre. C'est une parole historique. Nom de Dieu, c'est le contraire. Nous étions d'accord avec lui, c'était le contraire que nous souhaitions.
Est-ce qu'on peut dire que, globalement, dans le Jura Sud, où vous habitez, où vous avez milité, l'atmosphère autour de la question jurassienne était assez calme, assez tranquille jusqu'au 23 juin. Alors bien sûr, il y avait eu des actions du FLJ dans les années 60, mais il n'était pas forcément difficile, entre guillemets, d'être militant jurassien.
Non, ça n'était pas difficile, aussi pour la bonne et simple raison que les pro-bernois pensaient qu'ils allaient gagner. Donc, dans la mesure en énerver quelques-uns, ça n'était pas grave. Ils disaient, de toute façon, au bout du compte, il n'y aura jamais de canton du Jura. Et ils ont vécu comme ça. Si bien que la surprise qu'ils ont vécue le 23 juin, ils l'ont expliquée par la ruse des séparatistes. Ils ont cru que nous les avions trompés alors qu'ils avaient été trompés par leur maître, ce qui est tout à fait différent. Et normalement, quand on se sent dupé, c'est la réaction furieuse du cocu. C'est connu. Généralement, c'est là que se tourne au vinaigre. Et en plus de ça, la campagne ultérieure a alors été organisée par quelqu'un qui s'y connaissait en la matière. C'était André Horry, qui était quand même un ancien sympathisant nazi.
La campagne suivante, c'est celle du plébiscite ou des plébiscites de récupération du 16 mars 75. Là, alors, l'atmosphère ici dans le Jura Sud a diamétralement changé.
Pour cette raison-là, c'est l'ampleur de la surprise qui a fait l'ampleur ou la violence de la réaction. Je me souviens que le soir du 23 juin, j'en parlais avec Roland Béglin et Germain Danzé. Je leur dis, bon, ben maintenant, je vais jouer mon rôle habituel de rabat-joie et de trouble-fête, et il faudra préparer la campagne suivante. Et Roland Béglin me dit, jamais ils voudront rester bernois tout seuls. Il n'y aura pas de deuxième tour. Et je me suis aperçu qu'il était tellement heureux du résultat qu'il avait oublié le premier principe qu'il nous enseignait toujours, ne jamais prendre ses désirs pour des réalités. Ce qui prouve que lui aussi, contrairement à ce qu'on dit, était un être humain.
Cette atmosphère compliquée dans le Jura Sud que vous avez vécue, comment elle se matérialisait ?
Il y avait une aile radicale pro-bernoise qui montrait ouvertement son hostilité en ne me saluant pas, ou en tournant la tête, ou en faisant des grimaces, enfin des choses comme ça. Voilà, il y avait des choses. J'ai reçu des menaces de mort. D'ailleurs, j'avais reconnu la voix de celui qui m'avait menacé de mort. J'avais dit, ça m'étonnerait que vous alliez me zigouiller alors que vous n'avez même pas le courage de me dire votre nom. Et après, ça s'est arrêté. On a une fois eu des vitres cassées, on a eu des choses comme ça, puis des pneus crevés, enfin, vous voyez, disons, la petite délinquance ordinaire de cette époque-là.
Si on en revient alors à cette période, le vote du 16 mars, où là, les trois districts de l'actuel Jura bernois, on va dire ça comme ça, en partie pour celui de Moutier, décide de rester dans le canton de Berne. Vous vous souvenez de la réaction au sein du RJ, de la réaction de Roland Béglin le jour du 16 mars ?
Oui, alors le résultat était attendu. Il n'y avait pas de surprise. L'opération était, disons, suspendue malgré tout au vote de Moutier. C'était Moutier qui était la clé de la Suisse, qui était l'objectif absolu. Et là, l'écart était très faible. Donc, il y avait une chance que, dans une troisième phase, Moutier rejoigne déjà le canton de Jura à ce moment-là. Et ça n'a pas été possible parce que les urnes ont été confisquées. Les pro-bernois ont pu avoir la liste de tous les abstentionnistes pour ensuite les faire voter. Et ils avaient pour les faire voter un argument majeur qui s'appelait les caisses noires. Et c'est ce qui a fait le résultat du mois de septembre à Moutier.
Caisses noires, c'est de l'argent public que le canton de Berne a versé à des mouvements antiséparatistes. Roland Béglin, au soir du 16 mars, est-ce qu'il gardait quand même la conviction qu'un jour, il pourrait y avoir une réunification ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de gens pensaient que la situation du Jura Sud allait se dégrader de telle manière qu'ils regretteraient leur vote et qu'ils reviendraient sur leur opinion. Ce qui est une chose, à mon avis, illusoire. Parce que quand il s'agit de vote d'identité, comme c'était le cas notamment avec la population bernoise établie dans le Sud, qui avait des liens affectifs, traditionnels, familiaux avec l'ancien canton, les gens votent en fonction de leurs origines. C'est ça qui a été l'élément décisif dans la différence entre le nord du Jura et le Sud.
avant d'occuper des fonctions au comité directeur du rassemblement jurassien, puis ensuite d'unité jurassienne, ou à cette période dans les années qui ont suivi finalement le plébiscite du 23 juin, vous avez pris une importance plus grande dans le mouvement, mais vous aviez aussi été, avant tout ça, un militant de base du Bélier dans les années 60. Une action peut-être assez original qui avait été menée, à laquelle vous avez participé. Il était question d'ambassadeur.
Oui, alors dans le cadre de l'internationalisation de la question jurassienne, nous avions eu l'idée de recevoir les ambassadeurs qui allaient présenter leur lettre de créance, leur vœu de bonne année au Conseil fédéral. Je crois que c'était le 6 janvier ou le 5 janvier, un truc comme ça. Et nous savions à quel moment ils allaient arriver. C'était en grande pompe. Et nous avions simplement déployé des drapeaux jurassiens et des banderoles là-devant. Alors on a été embarqués vite fait, hein. Mais alors c'était marrant de voir ces ambassadeurs auxquels on allait montrer les merveilles de la démocratie suisse et qui voyaient qu'il y avait de la perturbation comme chez eux et qu'il y avait des sourires malicieux. Un peu plus malicieux que les flics qui nous ont arrêtés, je dois dire.
Ce genre d'opération-là, alors on imagine que pour la Suisse bien pensante de l'époque, ça passait difficilement.
Ça passait d'autant plus mal que c'était rigolo. Quand vous avez les rieurs de votre côté, c'est pas très agréable d'être de l'autre. Et on avait d'ailleurs souvent des actions qui étaient à caractère délibérément humoristique. Il y a eu le dépôt d'un âne dans la fosse aux ours, c'était l'âne au nid, en l'honneur de Monsieur Annoni. Et puis il y a eu la fameuse opération saucisse.
Alors l'opération saucisse, ça c'est quand même quelque chose de très particulier. Personnellement, je ne connaissais pas cette anecdote, vous pouvez nous en parler ?
Ah oui, c'est dans le cadre des services secrets, mais je ne suis pas lié par le secret de la confession, je peux vous le dire. Il y avait un type qui fréquentait un bistrot de Léman qui était connu comme étant un indicateur. Il tendait toujours l'oreille de façon un peu suspecte, si bien que Germain Chenal et un autre copain, ils sont arrangés pour livrer une information confidentielle suffisamment bruyante pour que l'indicateur l'entende. Alors c'était une action présumée de peinture sur la route des Rangiers, au cinquième virage après la sortie de Levelier, à 1h30 du matin, entre le samedi et le dimanche. Alors évidemment, quatre béliers arrivent, à l'heure dite, au lieu dit, avec les bidons, les flics leur tombent sur le dos, ouvrent les bidons, et à l'intérieur, il y avait des gendarmes, c'est-à-dire des saucisses.
C'est aussi une manière d'illustrer un peu ce côté humoristique que le groupe Bélier souhaitait donner à ces opérations. Mais cet indicateur, c'était un policier, c'était monsieur tout le monde ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'était un monsieur tout le monde qui peut-être avait des sympathies de la police ou bien qui simplement avait réussi à faire sauter une amende de stationnement, allez savoir.
Ensuite, vous avez, donc on l'a dit, pris des responsabilités au sein du comité directeur du RJ. Vous avez aussi commencé à écrire des textes pour la presse autonomiste, pour le Jura Libre. Comment ça s'est passé, ce passage, finalement, à l'écrit, que vous continuez encore aujourd'hui avec les chroniques du Jura Libre ?
Enfin, j'ai une facilité d'écriture qui m'est venue comme ça. Et du moment que j'avais cette facilité, autant qu'elle serve à quelque chose. Et donc, je me suis mis à écrire, j'y ai pris beaucoup de plaisir, et puis j'ai fait à peu près 3000 articles en 50 ans. Et puis, c'est une joie d'écrire, il faut le savoir. C'est pas facile, il faut y penser avant, mais c'est un véritable plaisir, et évidemment, la récompense, c'est quand les clients sont contents.
L'idée d'écrire pour le Jura Libre ou pour la presse militante autonomiste de l'époque, elle vous est quand même pas venue toute seule.
C'était le goût du canular. Et les premiers écrits que j'ai faits, c'était les billets humoristiques sous un pseudonyme qui étaient de pure plaisanterie, et les gens éclataient de rire. Et Begley me disait, je n'ai aucun humour, vous en avez, profitez-en. Voilà, alors j'en ai profité, voilà.
Et puis il y a aussi quelqu'un qui vous a suggéré de commencer à écrire.
Oui, c'était Jean Cutin. Jean Cutin m'avait dit, vous avez une patte d'écrivain, mais je n'y croyais pas. Je voyais plutôt le côté cocasse des choses que le côté poétique, tel que Cutin l'a illustré mieux que personne.
Il ne s'était pas trompé quand même, l'agent Cutin.
Il s'était trompé sur la fibre littéraire pure, mais sur la fibre polémique, non.